Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec nous ce dimanche matin, comme les énormes. Nous avons eu une excellente, très belle nuit, et surtout nous avons aimé la paillette fraîche, ce bon pain français ce matin que nous avons mangé ensemble. Bien sûr, on a eu en France, on n'a pas toujours les dimanches matin chers qui sont à faire. Bon, ce matin, c'était excellent, on était très content de pouvoir en faire. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, juste deux, trois mots. Alors, donc, je m'appelle Jonathan, je suis américain à la base. Donc, mes deux parents étaient américains, mais ils sont venus à Paris en année 1955 pour Charles, pour le père de la terre. Et donc, moi, je suis né à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital américain, en 1956. D'accord, le 14 décembre 1956, et trois mois après ma naissance, mes parents ont décidé de quitter Paris, puis sont nés à Genève. Et là, j'ai grandi pendant les premiers 15 ans de ma vie. C'est pour ça que je parle français, en tant qu'américain, sans trop l'accent, et que parfois on dit que je quitte l'accent suisse. Vous m'entendez peut-être un petit peu de français. Mais je peux mettre un fond si on veut. Et donc là, j'ai grandi à Genève, ne connaissant pas le Seigneur. Et à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont envoyé dans un internat pour faire mes études. Donc j'ai commencé dans un internat anglais, en Suisse, et de là, aux États-Unis pendant quelques années. Et ensuite, l'université à New York. Et mon objectif était de devenir homme d'affaires multilingue, comme mon père, mais le Seigneur a eu une autre idée pour moi, et ça je le raconterai cet après-midi, comment je me suis converti à Jésus-Christ. Et j'ai rencontré à l'âge de 19 ans, et donc ça a complètement changé ma carrière, quelque part, parce que j'ai réalisé qu'il m'appelait au ministère. Donc après mes études, et bien, je suis devenu steward dans une compagnie aérienne à New York, et un jour, j'étais là, dans la compagnie Panam à New York, et j'ai rencontré la plus belle femme du monde, qui était aussi hôtesse de l'air, mon épouse Meg, qui est ici ce matin, qui était hôtesse de l'air pour Panam, chrétienne, convertie au Japon. Et de là, on est parti en Californie, on avait entendu parler d'un homme, peut-être vous connaissez le nom de John MacArthur. Et quand j'ai rencontré ce prédicateur, je me suis dit, ah ben quand je suis grand, je vais être comme lui. Parce que je trouve qu'il enseigne vraiment bien la Bible. Et alors, on est parti en Californie, et de là, j'ai fait mes études de théologie. Et après, ben, j'avais le cœur de revenir à Genève. Parce que, puisque j'y avais grandi, je n'avais jamais entendu l'évangile, j'ai demandé au Seigneur de me permettre de retourner. Donc, on est revenu il y a 32 ans en arrière, donc je suis en France. En premier, on a commencé à Lyon, puis ensuite à Paris, à veiller ma maison pendant 10 ans, j'étais pasteur. Et de là, on est parti à Genève il y a 22 ans en arrière pour un ministère pastoral. Et il y a 11 ans en arrière, on a démarré une église qui s'appelle l'EIG, l'Église évangélique internationale de Genève, c'est là où je suis aujourd'hui. Donc, au plein cœur de Genève. Et on habite en France, juste à côté. Et l'objectif, c'est dans 2-3 ans, je ne sais pas quand le Seigneur pourra un autre pasteur, de pouvoir donner cette église à quelqu'un d'autre, parce qu'on ira faire autre chose que je ne sais pas quoi encore. Donc ça, le Seigneur va devoir nous guider. Donc ça, c'est la courte histoire un petit peu de notre vie. Je vais peut-être dire un petit peu plus sur nos enfants aussi cet après-midi. D'accord? Alors avec ça, on va prier, et ensuite on va attaquer notre sujet pour ce matin. Seigneur, c'est un plaisir ce matin de pouvoir nous réunir dans ce lieu, comme quelqu'un l'a appelé tout à l'heure, en pleine liberté de pouvoir ouvrir et sonder la parole. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Seigneur, nous t'aimons de tout cœur et nous te demandons pardon pour nos multiples péchés, Seigneur, sachant que le sang de Jésus-Christ vient nous pardonner et nous offre la vie éternelle. Et donc, je te prie que ce matin, même si le sujet est très particulier, sur le sujet du rôle de la femme dans l'Église, je te prie que tu puisses utiliser ta parole pour nous aider les uns et les autres, l'un et l'autre, avec les épreuves que nous subissons dans la vie, Seigneur, de nous réconforter par ta parole. Donc, guide-nous maintenant, et merci de tout cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme vous le savez, Nicolas m'a invité pour venir vous parler de trois messages sur un sujet très particulier, le rôle de la femme dans l'Église. Le rôle de la femme dans l'Église. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, et on va lire le texte clé dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. S'il y a un texte clé sur le sujet, il est bien là dans 1 Timothée 2. Peut-être un des textes les plus débattus par rapport à ce sujet. Donc, je vais le lire. 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Peut-être qu'on va commencer au verset 8, juste pour le contexte. Donc, Paul écrit à Timothée, ce jeune protégé, et il lui donne des instructions sur comment nous devrions nous comporter dans l'Église, et voici ce qu'il dit par rapport aux hommes et aux femmes. 1 Timothée de l'Église. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles et ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, elle ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors aujourd'hui, donc, c'est le deuxième message, puisque le premier je l'ai donné hier soir, et si vous n'étiez pas là, je vais juste réviser brièvement un petit peu ce qu'on a vu hier soir. On a commencé hier soir sur ce que j'appelle la dignité de la femme dans la Bible, c'était vraiment le sujet. Aujourd'hui, ce sera le portrait de la femme dans l'Église. Hier soir, on a commencé en regardant brièvement quel était le statut de la femme dans l'Antiquité. En Grèce, ensuite à Rome, ensuite dans le judaïsme, et ensuite de nos jours. Puis nous avons examiné la dignité de la femme avant la chute. C'est important de voir. Car nous avons examiné la création de l'homme et de la femme et constaté que Dieu a créé l'homme et la femme égaux, spirituellement et humainement parlant, mais différents dans leur rôle, même avant la chute. Cela est une évidence que l'homme et la femme ont des rôles biologiques différents. Eh bien, il est le même pour le rôle l'un vis-à-vis de l'autre. Dieu a créé l'homme pour mener la femme et la femme pour être une aide à l'homme. Et avant la notion du péché, on a vu hier, il n'y avait rien de dégradant en cela. Ils étaient les deux heureux et satisfaits de leur rôle respectif. Puis nous avons examiné ce qui s'est passé après la chute, lorsque l'homme et la femme ont péché. Dieu les a maudits. Dans Genèse 3,16, nous avons vu comment la malédiction a renversé le rôle de l'homme et de la femme. Et à partir de ce moment dans l'histoire, c'est ce qu'on a vu, la femme, c'est important, a voulu usurper le rôle de son mari, et ce mari, lui, se rebelle à ce désir de sa femme, et donc écrase sa femme de manière terrible souvent. Et on a vu que les deux ont tort, mais ça, c'est la raison de la malédiction, le résultat de la malédiction. Et alors, là, on a le clash entre l'homme et la femme, et quelle est donc la solution? Eh bien, ce qu'on a vu est déjà mentionné dans Genèse 3,15, le proto-évangile. La solution, c'est en recevant de Dieu sa solution pour le péché, annoncée dans l'Ancien Testament et accomplie dans le Nouveau Testament, le salut en Jésus-Christ. Et c'est lorsqu'on connaît Jésus-Christ personnellement, qu'on est pardonné notre péché, qu'on peut retrouver et comprendre le pourquoi de leur création, et retrouver avec bonheur et satisfaction leur rôle respectif et épanoui en Christ. On a vu que dans le contexte du mariage, eh bien tout d'un coup, le mari apprend à aimer sa femme comme Christ aime l'Église, en sacrifiant pour elle, et la femme commence à comprendre comment se soumettre à son mari, être une aide à son mari et le respecter dans la joie du Seigneur. Et là, les deux deviennent pleinement satisfaits, car ils sont dotés d'une dignité dans le Seigneur. Il n'y a rien de dégradant dans ces deux rôles. Eh bien, ce qui se passe au niveau de la famille, c'est pareil au niveau de l'Église. Dieu a prescrit que dans l'Église, le rôle et de la femme soient différents. Et c'est le but de nos textes ce matin, de comprendre quels sont les rôles différents, et surtout, puisque c'est le sujet, quel est le rôle de la femme au sein de l'Église. Donc, on vient de lire le texte, qui est dans 1 Timothée 2. Alors, parlons un petit peu du contexte. Alors, regardez par exemple dans le chapitre 1 et le verset 3. Il dit : Je rappelle l'exhortation que j'avais faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je vous ai fait l'Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc le problème, c'est qu'à Éphèse, là où était Timothée, il y avait des problèmes. Que dans beaucoup d'églises, malheureusement, il y avait des problèmes que certaines personnes enseignaient des fausses doctrines. Au verset 4, ils n'ont pas s'attaché à des femmes et à des généalogistes sans fin qui produisent des discussions publiques qui avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ces erreurs provoquaient des discussions dans l'église, des discours et des disputes. Donc, c'était une église qui se discute. Au verset 7, on apprend qu'ils voulaient être docteurs de la loi et ne comprenaient ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. C'est grave. Il y a des gens dans l'église qui voulaient être docteurs, enseignants, mais ils ne comprenaient ni ce qu'ils disaient et ni ce qu'ils enseignaient. Donc, ça c'est grave quand les gens veulent enseigner et ils ne comprennent pas ce qu'ils enseignent. On voit dans le verset 19 qu'il y a des gens qui travaillent dans l'église, parce qu'il dit en gardant la foi au verset 19, et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi de ce nom, ils sont inhumés et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne la fable d'Asphénée. Donc, il y avait tellement de problèmes dans l'église qu'il y avait deux hommes, en particulier, inhumés et Alexandre, que Paul a dû livrer à Satan pour une discipline publique à cause des problèmes. Donc, ce n'était pas une église top niveau, si on veut. Il y avait des problèmes dans cette église. Alors, nous avons pas beaucoup sur la doctrine erronée dans l'église, sauf quelques indices que nous interprétons avec prudence. Mais donc, c'est intéressant que dans ce contexte du chapitre 1, nous arrivons au chapitre 2. Et que Paul aborde, dans le chapitre 2, le problème du rôle du femme, de la femme dans l'église, justement. Donc, on a l'impression que les problèmes dans l'Église, c'est que ces faux docteurs encourageaient l'égalitarisme des hommes et des femmes dans l'Église. Ils disaient non, tout le monde est 100% pareil dans leur rôle dans l'Église, et que ça créait un trouble dans l'Église. Alors ce n'est pas dit tel quel, mais cela semble être impliqué et colle avec le contexte. Quoi qu'il en soit, Paul veut expliquer quel est le rôle que doit avoir la femme dans l'Église. Et donc, dans ces versets, 9 à 15, nous apprenons, nous voyons cinq traits qui devraient caractériser les femmes dans l'Église. D'accord? Donc, c'est très intéressant, ça va vraiment dresser le portrait que Dieu souhaite pour la femme dans l'Église. Alors, quel est le premier trait que nous voyons dans ces versets en ce qui concerne le portrait de la femme dans l'Église? Eh bien, premièrement, elle devrait avoir une apparence modeste. Une apparence modeste. Regardez le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, et ni d'habits somptueux. Et, par exemple, je vais encore lire le verset 10 encore, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors la première chose qui est très importante, c'est de poser cette question, dans quel lieu ces versets s'appliquent exactement? Où? Et en verset 8, regardez ce qu'il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc là, en ce qui concerne les hommes, on les exhorte à prier dans tout lieu. Dans le verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. D'accord? Donc, il se fait référence au verset 9, il applique le texte nouveau au même contexte du lieu, mais cette fois au niveau de la responsabilité de la femme. Donc, il dit, voici ce que les hommes devraient faire, maintenant, je vais vous parler de ce que la femme devrait faire. Et à partir du verset 11, Paul élargit le contexte et décrit le rôle de la femme spécifiquement au niveau de l'écoute au verset 11, que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Et au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur les hommes, elle doit demeurer dans le silence. Donc, ces versets s'appliquent très bien là où l'enseignement de la parole de Dieu se fait et là où elle est écoutée. Pour être plus spécifique, dans le chapitre 3 et le verset 15, regardez, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, Le contexte de ces versets, c'est très important, montre ici qu'il parle d'une description de la chronique générale où, dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Cette phrase logique décrit le comportement de toute personne dans l'église, c'est-à-dire dans la communauté des croyants et dans toutes les activités qui en font partie. C'est très important. Donc, quand on décrit ici le portrait de la femme, ce n'est pas le portrait de la femme dans le monde. C'est le portrait de la femme dans l'église et pendant les réunions publiques de l'église. Très important. Dans Corinthiens 14, 34, dans le texte sur les femmes aussi, il parle que c'est dans les assemblées. Donc, c'est bien dans le contexte de l'église. Donc, on a l'impression que les instructions de Paul s'appliquent au culte, mais aussi au-delà du culte, dans les réunions d'église. Là où il y a autorité et enseignement. Alors, il dit au verset 9, on dirait, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, on va prendre mot pour mot, d'accord? Parce que là, c'est vraiment le sujet. On veut comprendre exactement ce que Paul est en train de dire ici. Paul dit, je veux. Je veux. Le verbe n'apparaît pas dans le verset 9, mais au verset 8. Le verbe, au verset 8, exprime une demande apostolique dans le langage d'un désir personnel. On en parle au verset 12. Paul parle en son nom, mais il est quand même apôtre. Donc il parle avec une autorité apostolique. Il dit « je veux aussi ». C'est un adverbe. Et il fait l'alliance sur le verset 8 et le 9. De la même manière que les hommes au verset 8 doivent se conduire de manière appropriée dans les réunions publiques, les femmes aussi doivent se conduire de manière appropriée dans les réunions publiques. Donc je veux aussi que les femmes, Alors, le mot là pour femme, c'est le mot pour femme. En comparaison avec les hommes, au verset 8, par les hommes, non, il y a les femmes. Donc, il y a les hommes et il y a les femmes. Donc, il s'agit de la femme. Et il dit qu'elle doit être vêtue. Parce que le mot parle de vêtements. Donc, quel genre de vêtement, comment une femme dans l'église doit-elle se vêtir? Et il lui dit, d'une manière décente. Alors, ce mot décente, vous le connaissez. Parce qu'en grec, j'ai entendu grec, c'est le mot kosmos. Kosmos. Et le mot kosmos veut dire monde. Monde. En fait, pourquoi il utilise le mot kosmos? Parce que l'idée ici, c'est quand vous regardez le kosmos, vous regardez même l'univers, ce que vous remarquez, je vous rappelle, c'est que c'est très bien ordonné. Tout tourne comme une horloge. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé ce mot cosmos pour. C'est un mot qui décrit quelque chose d'ordonné, qui marche toujours de manière ordonnée. Le monde autour de nous opère de manière ordonnée. Et c'est pour ça que nous avons le mot cosmétique. Il y a le mot cosmos, oui, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a des planètes sur mon visage, non, non, pas du tout. Mais cosmétique veut dire orner ou décorer ou embellir ou mettre en ordre. Donc, une femme qui met des produits cosmétiques met de l'ordre sur son visage qui peut-être ne le saurait pas si elle ne mettait pas du maquillage. Oui, c'est un petit peu l'idée ici. Le maquillage, le cosmétique aide l'apparence pour mettre plus d'ordre, quelque part. On pousse vraiment à l'extrême, d'accord? Et dans 1 Timothée 3, 2, ce même mot parle d'un ancien. Il doit être ordonné. Il doit être. Par exemple, si je venais ce matin, si je sortais du lit, puis je venais sans me regarder dans la glace, j'aurais les cheveux comme ça. Ce serait la faute, d'accord? Ce serait vous dire, wow, jeune, tu as besoin de peut-être faire quelque chose de cosmologique pour mettre de l'ordre sur toi parce que tu n'es vraiment pas ordonné, d'accord? C'est ça l'idée ici. Pas être chaotique ou décousu. Donc, c'est ce qui dit ta femme. C'est ce qui dit ta femme. Et bien, se vêtir d'une manière décente. Le but est qu'une femme, lorsqu'elle vient, attention, hein, dans le cadre du culte, lorsqu'elle vient dans une église, elle ne doit pas venir toute débraillée ou toute délaissée. Elle doit venir vêtue d'une manière ordonnée, d'une manière appropriée, d'une manière décente pour adorer le Seigneur, et elle ne doit pas avoir une apparence chaotique. Mais cosmologique. Quand on continue, je veux aussi que les femmes aient une manière décente, cosmos, avec pudeur et modestie. Alors, ça c'est vraiment une histoire de l'attitude. Il y a le look, et ensuite il y a l'attitude. L'attitude de pudeur. Le mot veut dire une gêne intérieure face à un acte immoral. C'est le sentiment de ne jamais vouloir attirer l'attention immorale à soi-même par son vêtement, par son apparence. C'est ne jamais outrepasser les limites de la réserve et de la modestie féminine. Il y a une modestie juste et appropriée pour une église. Ce qui est en train de dire ici. Ça, c'est la pudeur. Et la modestie, littéralement, ce qui est simple, passe ou sans éclat, qui n'attire pas l'attention. La décence ou la chasteté. Platon a utilisé ce mot pour décrire celui ou celle qui pouvait contrôler ses passions corporelles et ses appétits. Paul dit donc ici que si une femme est modeste d'esprit, que cela se verra par la manière qu'elle s'habille. Donc c'est quoi le point ici, verset 9, puis c'est en même temps. Dans le contexte d'une église, et les réunions qui en font partie, lorsqu'une femme vient à l'église, quelle que soit la réunion, elle vient au culte avec un but d'adorer le Seigneur. Et donc elle se prépare pour ce moment, dans son attitude. Et cela se reflétera dans son habillement ainsi que son apparence générale. Elle s'habillera d'une manière décente, ordonnée, avec pudeur et modestie, équilibrée, elle n'est pas défaite, pas débraillée, pas délaissée, on pose, cela attire l'attention. La question c'est ça. Est-ce qu'elle attire l'attention par son habit, par son look? Non, elle s'habille d'une telle manière. Alors, ça ne va pas être. On ne dit pas qu'elle ne peut pas être vicieuse, c'est-à-dire les gens qui ont plus d'argent que d'autres, d'accord? La question c'est, est-ce que le but c'est d'attirer l'attention ou pas? La réponse est non. Donc continuons, verset 9, regardez. Et en plus, elle ne doit pas se parer ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ah! Alors que faire avec ça? Est-ce que ça veut dire qu'une femme ne peut jamais venir à l'église avec des tresses, ou avec de l'or, ou en mettant des perles, ou même en ayant des habits somptueux? Est-ce que ces choses sont toutes interdites? Alors moi, je connais des gens qui prennent ce verset littéralement dans ce sens-là et disent « Non, 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 ah, rien, on comprend, c'est de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent ici, d'accord ?» Alors, il faut comprendre le contexte historique, c'est très important. Car à l'époque, ces choses faisaient partie des pratiques qui semaient la confusion dans l'Église. Alors, parlons des tresses, et parlons de l'or et des fers. Il faut comprendre que la manière principale que les femmes à l'époque exposaient leurs richesses, d'accord, disons que vous êtes très riche, et vous voulez le montrer, comme on fait aujourd'hui, on peut montrer votre richesse de multiples manières. Et bien à l'époque, on faisait, un peu aujourd'hui, premièrement, par des habits somptueux, mais c'est pas tout. Culturellement, une des manières créées pour qu'une femme montre sa richesse ou son extravagance, c'était en portant des coiffures extraordinaires et surtout, en se faisant faire des immenses chignons tressés pleins de bijoux. Donc, vous avez les cheveux longs, mesdames, à l'époque, c'était les chignons, le truc à la mode. Vous prenez vos cheveux, et vous les montiez, waouh, des gros chignons, puis à l'intérieur des chignons, des perles, de l'or, des trucs, on n'a jamais des gens comme ça, vous savez, des très beaux, parfois c'est très très beau, mais des chevelures avec bijoux, avec plein de trucs dedans. Barca, le commentateur, dit ceci. Dans la société grecque, il y avait des femmes dont la vie entière consistait à faire faire leurs cheveux en chignon, les tressant afin d'y fixer de l'or, des perles, des bijoux de toutes sortes. À Rome, Pline l'Ancien décrit une femme, Lolia Paulina, l'épouse de l'empereur Caligula, dont la chevelure matrimoniale a coûté plusieurs dizaines de milliers de livres sterling en comparaison avec aujourd'hui. Par ses chevelures extravagantes et extraordinaires, les femmes empilaient et vendaient leur fortune sur leur tête. Oui, autrefois, mes amis, nous portions, enfin, les femmes portaient des bijoux dans les cheveux. Les bijoux, les bagues et tout ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on porte des bijoux sur la langue, sur les sourcils, sur le nombril, sur les oreilles. Vous avez remarqué, on met des bijoux vraiment un petit peu n'importe où maintenant, c'est incroyable quand même. Les choses ont vraiment, vraiment changé. Et en plus, il parle aussi d'habits somptueux à la fin du verset 1. C'est pareil pour les habits de robe, les femmes riches pouvaient coûter à l'époque plus de 800 deniers, sachant qu'un denier, c'est un juste, c'est un salaire journalier. Donc, ça fait presque 300 salaires pour une robe. Alors, imaginez qu'une femme vienne au culte avec une robe qui vaut 3 années de salaire. C'est un petit peu si comme moi je venais, bon, dès que le texte est dirigé aux femmes, si moi j'arrivais en smoking, cravate noire, en smoking avec des liqueurs et tout ça, vous diriez, pourquoi tu es en smoking, ça fait bizarre. Alors une cravate pour un pasteur s'est approprié, un smoking. Et imagine, je venais en smoking blanc. Vous diriez quoi? Là, il y a un truc, d'accord? Ben, c'est un peu pareil. Si vous veniez ce matin au culte en robe de marine, mesdames, ou une longue robe, je ne sais pas, une longue robe qu'on mettrait dans un bal et vous veniez ici, les gens, ils vont regarder un petit peu bizarrement, ils ne trouvez pas. C'est pas normal, quelque part. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Les habits somptueux, c'est très bien pour un bal, mais est-ce que c'est vraiment bien pour le culte? Il dit non, pas pour le culte. Alors, est-ce que c'est normal pour une femme de porter des beaux habits? Mais bien sûr que non! Regardez Proverbe 31, la femme vertueuse, elle est louée dans le Proverbe 31 pour ses vertus envers Dieu, mais aussi pour ses très beaux habits qu'elle avait. Donc c'est pas mal d'avoir des beaux habits. C'est juste au culte qu'il faut bien changer le truc, quoi. Est-ce que c'est normal pour une femme de porter des bijoux? Bien sûr que non! Non, l'Écriture n'interdit pas aux femmes de porter des bijoux, le maquillage et les beaux habits. Je vous donne par exemple dans le Cantique des Cantiques, juste pour et quand même confirmer ça, Cantique des Cantiques 1 et verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. D'ailleurs, c'est pas ça, verset 11. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Maintenant que je suis peut-être dans le mauvais chapitre, c'est pour ça que ça ne marche pas. Verset 10 du chapitre 1. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu de tes rangées de perles, dit-il. Et au verset 11, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Donc là, cette relation où Salomon est en train de louer sa femme pour sa beauté et ses bijoux, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir des bijoux. Chapitre 4, et le verset 9, Cantique des Cantiques, où il dit ceci. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Ah, il est super beau, il a une belle, il trouve son collier super beau aussi, voilà. Et il y a beaucoup de passages qui parlent de ça, dans Ézéchiel 16, 8 à 14, dans Ésaïe 70, Dieu me couvre du salut comme une fiancée ornée de bijoux. Israël se réjouit de l'amour que Dieu manifeste pour elle. Et même dans le Nouveau Testament, il y a plein de choses. Des choses comme l'or, les perles, les beaux vêtements du marié sont décrits dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 2, Matthieu 7, etc., Apocalypse 21, avec des connotations positives. Donc les bijoux et les beaux habits ne sont pas interdits. Si vous voulez pas. Le problème, c'est quand une femme utilise ses bijoux et ses habits pour afficher sa richesse et distraire le regard, et surtout pendant les activités de l'Église, où l'on est là censé adorer Dieu. C'est l'excès de la sensualité et des choses que Paul est en train de suggérer sont interdites ici. John Chrysostome a décrit des choses comme ceci au 4e siècle. De quelle parure veut-il parler? D'une toilette honorable, convenable, exemple de superfluité? Car c'est ainsi qu'ils observeront la loi de la réserve. Quoi donc? Vous venez prier Dieu et vous vous couvrez de bijoux et de frisures? Allez-vous donc danser? Vous rendez-vous donc à des noces? C'est là que les bijoux, les frisures, les riches vêtements ont leur place. Maintenant, il n'est nul besoin. Vous êtes venus pour supplier, pour demander le pardon de vos fautes, la miséricorde pour vos offenses, pour fléchir votre maître par vos prières. Pourquoi donc vous parlez ainsi? Même si nous sommes reconnaître qu'il n'est pas un mal de porter des bijoux ni de beaux vêtements dans certains contextes. Imaginez, d'accord, qu'on était à l'époque des Chinois. Les grands chignons ont rempli le buffet. Alors, l'église est belle à craquer, et vous arrivez, et la seule place qui reste, c'est que vous êtes derrière une dame avec un immense chignon plein de buffet. Et là, vous étiez voir le prédicateur. D'accord ? Mais en fait, qu'est-ce que vous allez faire pendant le culte ? Vous allez écouter le prédicateur, il chante, mais vous allez regarder ce chignon. Et vous allez lui dire, tiens, oh, regarde les bijoux, regarde les perles, wow. Et vous allez complètement distrait par ce chignon énorme. C'est tout ce que Paul est en train de dire ici. Y a-t-il des choses que nous faisons qui distraient le regard sur Dieu? Voilà ce qu'on peut dire par rapport au rôle de la femme. Donc ça, c'est la première chose. Deux. Une activité exemplaire. Le portrait de la femme devrait être une femme dont l'activité est exemplaire. Et maintenant, on passe au verset 2. Au verset 2. C'est fou, est-ce qu'on peut sortir le verset, c'est incroyable. Verset 2. Passe plus loin, verset 10. Mais, donc il y a maintenant ça qui est comme ça, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc dans le contexte, il est en train de dire le vêtement suprême d'une femme qui vient au culte, ce sont les bonnes œuvres. La vraie valeur, selon le verset, d'une femme ne se voit pas par le biais de ses vêtements, de ses bijoux, mais au travers de ses bonnes œuvres. C'est ce que j'ai jamais dit. Vous connaîtrez l'art par son fruit. Vous reconnaîtrez le vrai caractère d'une femme, pas parce qu'elle porte, mais parce qu'elle est. La parure qui rend une femme réellement attrayante n'est pas son habit somptueux, ses bijoux éclatants, ni son chignon élevé, mais la démonstration de ses vertus chrétiennes. Et par exemple, en Romains 13, E et 2, c'est exactement ce qu'on dit. Je vous recommande d'aimer notre sœur, qui est diaconasse à l'église de Gaucher, afin que vous la receviez, notre Seigneur, d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé à plusieurs et moi-même. Vous êtes en train de dire, ça c'est une femme de qualité, pourquoi? Parce qu'elle est connue pour avoir aidé les gens. Ça c'est une femme de qualité, voilà ce qu'il est en train de dire. Pareil pour Dorcas, par exemple, dans Acte 9, verset 39, Dorcas, il dit ceci, 9:39, Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, le conduisit à une chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant parce qu'elle était morte et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc, c'était une femme de qualité et les gens disaient, regarde, parce qu'elle a fait tellement d'activités et tellement de vêtements pour les gens qui en avaient besoin. Et bien sûr, la femme vertueuse du Proverbe 31. Donc, la conclusion, c'est pas mesdames. La Bible vous appelle à vous vêtir de bon goût lorsque vous participez au réunion de l'Église, mais jamais d'une façon qui pourrait être une distraction pour ceux qui sont là pour adorer Dieu, et que votre parure reflète plutôt votre relation avec le Seigneur, et que vous soyez plus reconnus pour vos bonnes œuvres, vos services au Seigneur, et pour les saints dans l'Église que vous aidez. Cela n'interdit pas du tout de mettre des bons vêtements, ni des bijoux, ni des maquillages, des rectacts, sans les désir d'attirer l'attention. C'est une question du cœur aussi. Cœur. Troisième élément du portrait de la femme de l'Église, une écoute attentive. Une écoute attentive. Verset 11, nous le dit comme ceci. Alors là, on rentre dans les versets chauds. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Alors, regarde. Le mot femme en progresse avec l'homme. Donc là, on parle bien de femme. Quand femme, que la femme écoute l'instruction. Alors le mot mathétès veut simplement dire être disciple. Apprendre par l'instruction. Apprenti, le rôle principal de la femme dans l'église, lorsque les hommes sont présents selon ce texte, et le verset 12, nous y reviendrons, c'est d'écouter et apprendre l'instruction dispensée d'une manière précise, en silence. Alors, peut-on dire que cet ordre n'est pas du tout perçu comme étant dégradant pour les femmes à l'époque, mais en fait encourageant, du fait que les femmes n'étaient pas encouragées. Globalement, les femmes gens n'étaient pas encouragés à apprendre, mais dans l'Église, il y a une leçon. Donc, c'est un plus pour les parents. Les Juifs disaient qu'ils avaient la moitié de la capacité mentale des hommes. Imaginez, c'est faux. C'est faux. Le christianisme a haussé le lot de la femme. Ici, la femme, non, peut, comme les hommes et avec les hommes, entendre et apprendre l'instruction. Alors, comment, en silence, c'est ce qu'il dit au verset 11, en silence. Alors, comment traiter d'interpréter ce mot? Eh bien, dans le verset 2, le mot devient silence. Dans 2 Thessaloniciens 3, 12, plutôt d'une manière paisible. Dans le contexte, dans le contexte précédent, l'instruction que reçoit la femme et ce qui suit est l'enseignement. Il parle bien de silence en opposition avec l'enseignement. Et le contexte suivant, le mot silence, apparaît deux fois en 2 versets, au verset 11 et au verset 12. Ceci est important car on a l'impression que c'est quand même l'élément sandwich. Il y a silence et silence avec une exhortation au milieu. Donc on a l'impression qu'il est en train de dire que le silence dont doit être dotée une femme est bien dans le contexte d'une réunion d'église et dans la présence des hommes. Quand là, l'église se réunit, quand il y a la dispense, quand on dispense la parole de Dieu, il y a des hommes présents, eh bien la femme, selon ici, devrait être silencieuse. Lorsqu'ils se réunissent ensemble, elle est appelée à écouter l'instruction en silence. Le contexte plus large nous aide à comprendre le sens de ce terme. Le rôle de la femme, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, 34, où il dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'enfuir à quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison, car il est mal sur une femme de parler dans l'église. Alors pourquoi? Pourquoi? Dans l'impression que certaines femmes avaient adopté l'habitude de disputation si commune chez les pollueurs. Donc, elles étaient toujours là en train de poser des questions et carrément de vouloir se disputer en public. Elles devaient apprendre à recevoir sans critique l'enseignement des responsables nommés tels quels dans l'Église et de se soumettre à eux. Alors, question. Est-ce que cela veut dire qu'une femme ne peut rien dire ni même ouvrir la bouche dans une telle réunion? Non, je ne pense pas. Car le verset dans ce contexte précis, dans l'Église, et dans le contexte d'une réunion en présence d'hommes, verset 12. On voit dans Corinthiens 11, 4 à 5, une femme a le droit de prier et prophétiser dans les réunions, il n'y aura plus de ça, d'accord? Donc cet ordre est à comprendre spécifiquement dans le contexte d'une église au niveau de l'enseignement et de l'autorité sur les hommes, comme le suggère le verset 12. Le verset 12 dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme ». Donc ça implique la présence d'hommes dans une réunion publique d'église. Donc la femme écoute la séance d'instruction en silence avec une entière soumission. Alors le mot ici veut dire « se ranger au-dessous, s'aligner au-dessous ». Et il dit, Paul est très clair, une entière soumission. La soumission de la femme dans ce contexte doit être entière et doit être percevoir comme une femme qui apprend. Qui apprend. En termes militaires qui décrit l'ordre, pas la nature intérieure du chose. On a déjà vu qu'une femme est égale à l'homme aux yeux de Dieu. Ici, c'est simplement un rôle, un ordre qui est différent. Ils ont des rôles différents. Et ça, ça va pas nous surprendre, on l'a déjà vu biologiquement, un homme et une femme sont différents. Au niveau du mariage, on l'a déjà vu aussi, l'homme et la femme sont différents, parce que c'est pareil au niveau de l'Église. C'est Dieu qui l'a décidé, c'est pas nous. L'homme et la femme ont des rôles différents. Écoutez, si on n'est pas convaincu, écoutez ce qui est passé. Par exemple, dans 1 Corinthiens 11, 3, il dit ceci, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, mais voilà, mais c'est dégradant d'avoir un homme ou mon mari qui est mon chef. Non, parce que si c'était dégradant, alors Jésus se sentirait dégradé parce que Dieu est son chef. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Moi, je ne me sens pas dégradé du fait que Christ est mon chef. Que l'homme est le chef de la femme. Ouais, ça n'est pas trop. Ensuite, et que Dieu est le chef de Christ. Alors, Dieu et Christ sont égaux, puisque Jésus est Dieu incarné, mais ils ont un rôle différent. Et lorsque Christ était sur terre en tant qu'homme, il soumettait sa volonté à celle du Père. Donc c'est pas du tout des talents, c'est simplement un rôle différent. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Lorsque nous sommes, par exemple, dans Romains 13:1, nous devons nous soumettre aux autorités gouvernementales, c'est pas dégradant. Alors peut-être qu'on n'aime pas, ça c'est une chose, d'accord? Peut-être qu'on n'aime pas, ça cause du péché en nous, et la Bible nous dit soumettez-vous au gouvernement. On se soumet, c'est pas dégradant, c'est juste qu'il faut maintenir l'ordre. Pareil, des enfants qui doivent se soumettre pour obéir à leurs enfants, dans Éphésiens 6:1, c'est exactement pareil. Donc il n'y a rien de dégradant dans tout ça. Donc le verset 11 ici est clair. Dans le contexte de l'Église, et les réunions en présence d'hommes, la femme doit écouter l'instruction en silence avec une entière soumission. 4. 4e trait de la femme d'Église, une humilité honorable. Une humilité honorable. Regardez le verset 12. C'est vraiment intéressant tout ça, hein. Verset 11. Quand la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça, c'est les versets que les gens n'aiment pas. Ah, écoutez, on va en parler pour prendre, il est simple. Tout le monde m'a dit, je ne permets pas. Alors, certaines personnes aiment interpréter ce verbe comme une note d'opinion personnelle de Paul. Personnellement, je ne permets pas. Impliquant que c'est juste son truc à lui. Oui, mais dans Corinthiens 14, 34, il dit qu'il n'est pas permis d'y parler, comme le dit aussi la loi. C'est une référence aux raisons vétérotestamentaires que les femmes ne doivent pas enseigner et prendre autorité sur l'homme. Bref, il est en train de parler en tant qu'apôtre, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc, je ne le permets pas, mais c'est en conforme aux Écritures. Conforme aux Écritures. Donc, ce n'est pas une opinion, mais la volonté de Dieu exprimée au travers de la parole apostolique de l'apôtre Paul. Alors, pourquoi cette injonction? Pourquoi est-ce qu'il le dit sur la verset 12? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais va demeurer dans le silence. Eh bien, cette injonction révèle que justement, il y avait dans l'église à Éphèse certaines femmes qui cherchaient à vouloir enseigner et prendre l'autorité sur l'homme. Sinon, elle ne serait pas là, l'injonction. Et donc, Paul intervient pour leur dire, vous devez arrêter, c'est pas bien ce que vous faites. Au nom du Seigneur. Ce n'était pas bien séant ni juste. Ce n'était pas le rôle précis de l'ancien testament. Alors, il y a deux interdictions que Paul donne ici. Premièrement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Le mot enseigner veut dire enseigner ou instruire. Bien sûr, dans le contexte, c'est clairement de l'enseignement biblique. Alors, est-ce que l'interdiction est générale? Est-ce que les femmes sont interdites de tout enseignement ou très spécifique, juste l'enseignement vis-à-vis des hommes? D'accord? Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur leur don. Est-ce qu'elle n'a jamais le droit d'enseigner du tout? Ou juste vis-à-vis des hommes? Alors, nous voyons que ceci n'est pas une interdiction générale d'enseignement par une femme, puisque le mot est suivi d'un qualificatif sur l'homme. Il est clair que l'injonction est limitée à l'enseignement auprès des hommes en assemblée publique. Alors comment comprendre cette injonction? Est-ce que enseigner et avoir autorité sont deux activités ou une seule activité? Est-ce qu'on devrait dire je ne permets pas à la femme d'enseigner et je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, deux activités, ou bien je ne permets pas à la femme d'enseigner et de ce fait de prendre autorité sur l'homme? Alors, il y a beaucoup de réflexions techniques, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais en grec, le mot est clairement l'objet de verbe, c'est un peu compliqué. Mais aussi du verbe enseigner. Cette construction est grammaticalement sans objection. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, il y a un lien entre les deux. Je pense que dire la femme ne peut jamais enseigner dans l'église. Non, elle ne peut pas enseigner les hommes dans les réunions publiques. C'est très différent. Il y a des textes, par exemple, dans Matthieu 6, 20, qui montrent que les deux activités sont liées dans le contexte. Donc, dans le contexte des réunions d'église, une femme ne doit pas enseigner d'homme et ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Donc, Paul permet aux femmes d'enseigner, mais ne doit pas enseigner des hommes lors de réunions publiques. Alors vous dites, mais qu'est-ce que vous faites alors? Est-ce qu'elle peut enseigner? Il est en train de dire, elle peut enseigner, mais pas des hommes dans une réunion publique avec un sens d'autorité. Alors regardez par exemple dans Tite. Dans Tite 2, 3 à 5, qu'est-ce qu'on apprend? Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, donc elles doivent enseigner dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être tenues chastes, etc. Donc là, c'est très intéressant, Paul dit, femmes âgées, vous devez enseigner les jeunes femmes ces choses. C'est un commandement clair que les femmes peuvent enseigner d'autres femmes. Ça, c'est sûr. Dans 2 Timothée 1, 5, Paul parle à Timothée en regardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. J'en suis persuadé, habite en toi aussi avec d'autres versets, on montre très bien qu'une femme a le droit d'enseigner ses propres enfants, mais les enfants en général aussi. Il y a même, et ça on y reviendra cet après-midi, dans l'acte 18, dans un effort d'équipe, homme-femme, à qui la précise. Hors contexte église, à l'extérieur de l'église, font équipe pour expliquer à Apollos la parole de Dieu. Elle est totalement impliquée avec son mari dans cet enseignement. On sait aussi dans Corinthiens 11, 3 que les femmes peuvent prier en présence d'hommes. Donc tout ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'une femme peut parfaitement avoir un don d'enseignement, même un don de leadership, mais lors des réunions d'église, ne devrait pas l'utiliser en présence d'hommes. Voilà ce que je veux dire. Alors que veut dire prendre autorité sur l'homme? Dans le même verset. Littéralement, usurper l'autorité. Paul utilise une terminologie fonctionnelle ici, pas une terminologie d'un poste officiel ou une fonction. Il ne dit pas qu'une femme ne doit pas être ancienne, mais ce qui est le cas, ça c'est une évidence, c'est pas le chapitre 3. Une femme ne peut pas être ancienne parce que pour être ancienne, il faut être mari d'une seule femme. Alors comment tu peux être mari d'une seule femme si tu es femme? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, puisque les femmes se marient, on pourrait dire, ouais, dans les églises où l'homosexualité est permise, peut-être ça joue. Mais ça c'est tout un autre problème. Mais la Bible clairement dit qu'il faut être mari d'une seule femme, donc comme un homme peut être ancien. Donc, une femme ne doit pas être ancienne, mais ne doit pas prendre autorité sur l'homme. C'est plus large qu'ancien. Ici, s'il y avait dit ancien, alors on pourrait conclure que la porte serait ouverte pour l'enseignement, mais pas ancien. Mais ce n'est pas le cas ici. Il parle de l'autorité en général. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme dans le contexte de l'église locale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? On ne rentre pas dans le détail précis sur quoi dans l'église passe et quoi ne passe pas. C'est un principe tout simplement. Tout rôle ou poste où la femme est en autorité sur l'homme, et particulièrement au niveau doctrinal et la direction de l'Église, semble être souligné. Elle ne devrait pas prendre autorité sur un homme. Donc l'homme ne devrait pas se soumettre à elle. Alors, question, est-ce que ce texte s'applique à toutes les femmes ou simplement aux épouses? Si Paul avait voulu décrire une relation mari-femme, il aurait utilisé des pronoms possessifs, comme il l'a fait dans Éphésiens 5, 22, son mari et sa femme, il ne l'a pas fait. Et le contexte ici clairement, décrit clairement les hommes en général et les femmes en général dans le sein de l'Église. Alors regardez maintenant, je suis consommateur, verset 13. La question se pose, pourquoi? Pourquoi une femme ne peut-elle pas enseigner un homme dans l'église et prendre autorité sur lui? C'est ça la grande question. Pourquoi? Alors, il donne la réponse ici, au verset 13 et 14. Car Adam a été formé le premier, et ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc il donne deux raisons. Parce que Adam a été formé le créateur. Et deux, c'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme séduite qui est rendue coupable de transgression. Donc, elle a péché avant Adam. Alors, certains disent, oui, non, mais ces versets ont été écrits à l'époque de Paul. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est différent. Que le problème d'Éphèse justifiait ces directives à l'époque, parce que c'était un problème culturel à l'époque. Il dit que ces versets sont culturels, qui s'appliquent qu'à l'époque de Paul. Mais ce qui est intéressant avec ces thèses, mes amis, c'est que ne colle pas avec le texte. Car les raisons que Paul donne pour les directives, en ce qui concerne les femmes, ne sont pas d'ordre culturel ou temporel, mais des raisons créationnelles et morales. Il dit, la raison que la femme ne doit pas avoir autorité sur un homme ni enseigner un homme, c'est premièrement parce qu'Adam a été formé le premier. Il retourne à Genèse chapitre 1 et 2, là. Genèse 2, 7, Dieu a créé l'homme. Genèse 2, 18 et 22, il forma la femme de lui pour lui. Tout ça, on a regardé ça déjà hier soir. Donc, tout ce qu'on est en train de voir ici, Paul ne fait que réaffirmer l'ordre créationnel de Dieu. Paul dit que Dieu créa l'homme avant la femme et que Dieu a créé la femme de l'homme pour l'homme avec des rôles différents. Il mentionnera la même raison dans le Corinthiens 11, on verra cet après-midi. Donc, ça, c'est la première raison, simplement que Adam a été créé avant. Et deux, que la femme a péché avant Adam. C'est ce qu'il dit encore dans le verset 14. Que la femme, c'est lui qui a rendu coupable de la transgression. Cette deuxième raison, qu'on affirme une autre vérité, qui s'éprend se trouve dans Genèse 3, la chute. Il rappelle que la femme a été tentée, rappelle que le serpent a tenté la femme, avant l'homme, elle a péché, et ensuite elle a donné du fruit à son mari. Ève a outrepassé sa responsabilité lorsque, indépendamment à son mari, elle a écouté le serpent, et lorsqu'elle s'est éloignée du regard protecteur d'Adam, elle est devenue vulnérable et a succombé à la tentation. Et de ce côté, Adam a suivi Ève dans son péché, lorsqu'en fait, il aurait dû protéger sa femme de la tentation, il ne l'a pas fait. Donc, elle a mené, lui a suivi ce qui était un renversement flagrant des rôles que Dieu avait établi. Et alors, le résultat pour l'humanité, c'est la chute. C'est que le monde aujourd'hui est dans un grave problème qui s'appelle le péché. Alors, question. Est-ce que Adam est moins coupable qu'Ève? Puisque Ève a péché en premier, est-ce que Adam est moins coupable? Est-ce qu'il est plus coupable qu'Ève que lui? Ben non, parce que le Nouveau Testament rend Adam le responsable ultime de la chute. Dans Romains 5, 15 à 21, et autres Corinthiens, c'est un peu humain. Donc, ce qu'on apprend ici, mes amis, c'est que Ève n'a pas été créée par Dieu, écoutez bien, hein, de manière à pouvoir assumer le rôle de responsabilité ultime. Donc Dieu avait donné ce rôle au mari. Alors, donc elle est plus vulnérable à l'erreur qu'Adam. Mais c'est normal, puisqu'il a été créé à être son aide. Puis dans 1 Pierre 3, c'est quand même intéressant, hein, 1 Pierre 3, 7, il est dit ceci, « Marie montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec une femme, comme avec le sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi habiter avec vous de la grâce de la vie qui en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à mon prière. » C'est intéressant qu'il appelle la femme le sexe plus faible. Donc, il y a une faiblesse plus grande que l'homme, mais ça ne veut pas dire que l'homme est fort. L'homme est faible, la femme est un peu plus faible. Mais, de nouveau, ça paraît très dégradant tout ça, mais dans la Bible, c'est simplement une situation de réalité. C'est comme ça que Dieu a créé, à ce niveau, les choses. Dieu a conçu l'homme pour être chef, en Corinthiens 11, 3, et a conçu la femme pour être son aide. Donc il ne faut pas renverser les rôles, c'est tout ce qu'on est en train de dire ici. Ni dans le foyer, ni dans l'église, on pourrait dire ainsi, Ève était plus susceptible à l'erreur qu'Adam, même si Adam est aussi tombé dans l'erreur, mais après la chute. Alors voici les deux raisons que Paul donne pour lesquelles une femme ne devrait ni enseigner les hommes, ni prendre autorité sur eux dans les réunions des princes. C'est simplement ce que le texte dit. Il ne pourrait pas être plus clair. Alors, question. Si c'est vrai tout ça, je ne veux pas que je l'enseigne, d'accord. Est-ce que la femme doit se considérer alors être un membre de l'Église seconde classe? Il y a les hommes, bien sûr. Il y a les femmes. Est-ce qu'il est inférieur à cause de ses rôles? Doit-il vivre toute sa vie sous l'ombre de l'homme et se réduire à cette place inférieure? C'est exactement ce que les féministes veulent vous faire croire, mesdames. Que vous êtes inférieur, Que les hommes sont machos et sont au-dessus de vous. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Pas du tout. Car on le sait, à cause du dernier verset, il y a ce qui dit. Dans Timothée 2, verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Bien pour savoir avec quoi revenir cet après-midi. Parce qu'on a abordé cet après-midi. D'accord? Il est vraiment important parce que ce verset nous montre comment Dieu honore cette femme. Pour celles qui se disent, ouais, mais papa, moi, parce que c'est pas des jeunes, c'est dommage, quoi. Moi, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie d'avoir l'autorité sur les hommes. La Bible dit non. Ah, moi, alors je suis rélégué à seconde classe. Non! Non, c'est que vous avez un rôle différent. Les hommes ont leur rôle d'autorité, l'enseignement, et les femmes ont un autre rôle. Absolument incroyablement génial, décrit clairement dans verset 15. Et ça, on verra ce après-midi. On va regarder ce verset. Ensuite, je vais donner toute une liste de questions un peu épineuses par rapport à ce sujet. Je les réponds, d'accord? Suivi d'un temps de questions et réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions sur n'importe quoi. Alors, je vous dis déjà, peut-être que je ne connaîtrai pas la réponse. Et si je ne la connais pas, je vous dirai rien. Je n'ai pas de problème de dire ça. Mais on va regarder ensemble et débattre ensemble pour voir si il y a des questions sur ce sujet. Si vous voulez même élargir le sujet, pourquoi pas. On pourra vraiment avoir un moment très très sympa, questions-réponses. Venez, même les enfants, des questions, on y va, on attaque. Et je pense que ça va être un moment très très dynamique. Ça marche?
Oui.
Super, on va prier maintenant et remercier le Seigneur pour ce qu'on a déjà vu. Seigneur, vraiment Dieu, moi ce que je te remercie ce matin, c'est pour la clarté de la parole de Dieu, Seigneur. Quand on s'arrête mot par mot, et nous savons que chaque mot est inspiré. Alors Seigneur, bien sûr, nous sommes teintés par le péché, donc on ne voit pas tout clairement. Mais Seigneur, la Bible est tellement claire. Et Seigneur, je te remercie parce que ce texte est très très clair. Je te prie que les femmes qui écoutent ce message soient encouragées, pas du tout découragées. Et qu'elles réalisent qu'elles ont des privilèges et qu'elles ont été dotées de choses incroyables dans leur vie et les hommes de leur côté aussi, Seigneur. Et nous avons des rôles différents et que devant toi, nous sommes tous 100% égaux, Seigneur, créés à l'image qui est la tienne, Seigneur, l'image de Dieu. Donc je te remercie et je me réjouis déjà pour tout à l'heure, pour la suite, pour la fin et pour la discussion, Seigneur. À toi toute la gloire et merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen.